Europe 1.
Bonjour, c'est Fabrice Almeida. Dans cet épisode, nous partons pour le Japon, découvrir l'une de ses facettes les plus sombres, celle de ses organisations criminelles, les Yakuza.
Au cœur de l'histoire.
Il y avait des règles précises pour pratiquement tout. De la façon dont on salue quelqu'un au-dessous ou au-dessus de soi, la façon de parler aux gens, la façon d'indiquer que vous les écoutez. C'est un monde féodal, très différent de la vie ordinaire extérieure.
C'est un extrait des mémoires d'Ijishi Eiji, un ancien Yakuza, qui en 1989 avait détaillé quelques-uns des aspects de cette organisation étrange que sont les gangs de Yakuza. Nous allons entrer dans l'histoire de ces gangs au moment même où le Japon célèbre l'abdication de l'empereur Akihito et la promotion de son fils Naruhito comme 126e empereur du Japon. Derrière l'apparent changement, nous allons voir que certaines coutumes, certaines habitudes n'ont pas changé dans les milieux du grand banditisme et de la pègre japonaise. Et je vous emmène donc au cœur de l'histoire des gangsters japonais. Notre histoire ne commence pas au Japon, mais en Corée, à Séoul plus précisément. Nous sommes à l'aube du 8 octobre 1895. Ce matin-là, le palais royal, aussi appelé palais du bonheur resplendissant, termine sa nuit dans le calme. Les arbres du jardin sont enveloppés d'une brume épaisse. À pas feutrés, une dizaine d'hommes habillés en noir, au visage couvert, s'avancent. Ils restent immobiles quelques minutes, puis tout à coup, l'assaut est donné. Aussitôt, le combat commence. Les assaillants, à coups de couteau, réussissent à réduire la défense de la reine et pénètrent dans les appartements de la reine de Corée. Les demoiselles d'honneur courent dans tous les sens. Elles sont affolées. Elles hurlent. D'autres gardes surgissent. Comment sauver la reine? La scène bascule dans l'horreur. Les assaillants, après avoir éliminé les défenseurs, se trouvent dans l'antichambre et une à une, ils massacrent les demoiselles d'honneur. Le sol du palais royal est couvert de sang. Mais les assaillants ne s'arrêtent pas là. Ils sont venus pour tuer la reine elle-même. Visiblement, ils appliquent une consigne stricte. La reine Mine, en entendant le chaos à la porte de sa chambre, n'a pas cherché à s'échapper. Elle est sur son lit lorsque les tueurs arrivent. La souveraine est violée, puis poignardée à mort. Son corps est ensuite brûlé dans un bois qui se trouve à l'extérieur du palais. Bientôt, les assassins dispersent ses cendres au vent. Comment expliquer un tel assaut? Comment expliquer une telle atrocité? La reine Mine est la première épouse du roi Gojong. Depuis toujours, elle s'est opposée au nouveau régime du Japon, qui, depuis 1868, essaye de mettre la main sur la Corée. Depuis 1868, en effet, a commencé une ère de modernisation du pays, que l'on appelle souvent l'ère Meiji. Or, le Japon, grande puissance locale, tente de s'étendre sur le continent asiatique. Il fait face d'ailleurs à la Russie dans cette course à l'espace. Tokyo niera pourtant toute implication dans ce meurtre sauvage. Mais des rumeurs commencent à circuler dès cette époque. Le crime aurait été commandité par des responsables politiques japonais. Le commando qui a œuvré est une organisation secrète appelée la Société de l'Océan Noir. C'est un groupe de nationalistes japonais qui collaborent avec des mafieux. Ces personnes ne sont pas seulement les bras armés des politiques. Ils partagent également la logique d'expansion coloniale du Japon. Ils veulent affirmer leur pays comme une grande puissance impériale. La Société de l'Océan Noir présente une composition assez opaque. Les historiens qui ont travaillé aujourd'hui disent qu'elle était composée d'un mélange de mafieux, de terroristes, de politiciens libéraux, mais qu'elle a aussi recruté d'anciens seigneurs de la guerre de l'époque féodale, d'anciens samouraïs. On sait peu de choses d'ailleurs sur cette organisation, à part la puissance de son influence. L'assassinat de la reine Mine est l'un des événements qui annonce une étape capitale dans l'histoire de la Corée, son annexion par le Japon en 1910, qui durera jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est dire le pouvoir qu'avait à l'époque la Société de l'Océan Noir, une organisation qui empruntait un certain nombre de ses membres à un milieu déjà appelé à l'époque Yakuza. Qui étaient ces personnages que l'on appelle Yakuza? Pourquoi étaient-ils impliqués avec la haute politique japonaise? Comment s'est effectuée la fusion entre ces gangs et l'État? Est-elle toujours vraie aujourd'hui? Autant de questions qui nous replongent dans l'histoire ancienne du Japon. Car les Yakuza ont commencé dès le XVIIe siècle, à l'époque de l'ère Edo, quand régnaient sur le Japon les shoguns, ces chefs de guerre qui dirigeaient des milliers de soldats, les samouraïs. Yakuza, c'est un nom étonnant. D'où vient-il d'ailleurs ? Le terme serait dans tous les cas lié au milieu du jeu. La première hypothèse est que ce serait une main perdante au jeu de cartes. Ya veut dire 8, Ku veut dire 9 et Za veut dire 3. Le total fait 20 et ce serait la pire main que l'on puisse avoir dans ce jeu de cartes. Et puis, il existe encore une autre interprétation. Yakuza serait celui qui est assis sur une chaise. En somme, le guetteur qui s'occupe de surveiller si la police ne va pas intervenir pendant une partie de jeu clandestine. Dans tous les cas, ce mot renvoie à l'univers du jeu et c'est d'ailleurs ce que précisait Ijishi Ieji, cet ancien chef de gang qui avait fait ses mémoires et donné de l'intérieur une vision du monde des Yakuza.
Le vrai métier des Yakuza, c'était le jeu et rien d'autre. De mon temps, si un Yakuza avait gagné sa vie d'une autre manière, les gens l'auraient regardé de haut en se disant « Lui, il veut ramasser des œufs de tous les côtés, parce qu'il n'arrive pas à gagner sa vie avec le jeu. Il n'est pas assez bon. C'est un imposteur et rien d'autre. »
Ainsi, le jeu est au cœur de l'activité des Yakuza. Et cela remonte bien au XVIIe siècle, à une époque où deux groupes essayaient de créer une sorte de monopole sur ces activités, notamment le long des routes et dans les quartiers un peu malfamés des grandes villes de l'époque. Il y avait d'abord les Bakuto, ces joueurs professionnels qui étaient considérés comme des sortes de parias. Ils organisaient des parties de cartes dans des bars, dans des auberges clandestines, et de ce fait, on finit par constituer une sorte d'organisation secrète. L'autre groupe, c'est celui des tekia, des marchands itinérants, qui s'étaient progressivement spécialisés dans les arnaques et ont fini par établir une sorte de racket sur tout le jeu dans les foires ou dans les auberges qui étaient fréquentées par les voyageurs. Que l'on soit tekia ou bakuto, dans tous les cas, on appartenait à un milieu qui se constituait en contre-société, un milieu qui était lié à des habitudes de l'ancien régime. Si bien qu'au moment où va émerger la modernisation du Japon, ces groupes vont devoir se réadapter, trouver de nouvelles alliances et notamment se rapprocher du monde politique. Il faut refaire le portrait de ce Japon de l'ère Meiji, à partir de 1868, à la fin du 19e siècle. Il y a d'un côté le monde traditionnel, et puis l'arrivée et le développement de grands ports et de grandes villes industrielles. C'est à la lisière de ce monde-là que les Yakuza vont continuer de prospérer en recrutant d'anciens combattants privés, en recrutant aussi d'anciens spécialistes des arts martiaux pour pouvoir assurer la sécurité de leurs salles de jeu. Et progressivement, ils vont aussi s'intéresser au nouveau business, celui des ports, comme Kobe. C'est là, sur l'île d'Osaka, que va naître, quelque part entre 1906 et 1915, un nouveau gang. Un gang fondé par un monsieur qui a un nom assez simple au Japon, Yamaguchi. Yamaguchi Gumi, le gang des Yamaguchi. Ce sera l'une des principales organisations qui va se structurer autour du business des jeux, autour du racket des transports, et qui va réussir à faire le passage entre l'ancienne pègre et la mafia contemporaine, capable de s'intégrer dans l'ensemble des activités d'une société. très attaché à la tradition parce que précisément il s'était structuré dans l'ancien monde, les Yakuza n'ont pas de difficulté à se lier à l'extrême droite réactionnaire japonaise, celle qui rêve d'introduire dans le monde moderne les valeurs du code de Bushido, du code de conduite des samouraïs. C'est ce qui explique que la société de l'océan noir ait pu trouver dans la pègre des relais. C'est ce qui explique encore que dans les années 30, les Yakuza se rapprochent du gouvernement militariste et servent à l'expansion du Japon dans le monde colonial chinois. Bien sûr, en Chine, le monde des Yakuza trouve dans le trafic d'opium l'opportunité de réaliser de nouveaux bénéfices et peut ainsi permettre le développement d'une économie souterraine chinoise. On peut d'ailleurs se demander si une partie des gangs chinois ne trouveront pas là aussi un des modèles qui va les inspirer pour les années 80 et 90, quand à leur tour, ils se lanceront à la conquête du Japon. Mais retour à la Deuxième Guerre mondiale. Le conflit avec les États-Unis va ruiner l'économie japonaise et va bouleverser toute la structure sociale du Japon. Désormais, il va falloir reconstruire de nouvelles organisations. La plupart des grandes familles qui existent aujourd'hui, il en existe quatre principales, sont nées après la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a que les Yamaguchi-gumi, dont l'origine puisse remonter à la Première Guerre mondiale. Toutes les autres sont donc des enfants du monde capitaliste renouvelé dans lequel entre le Japon après la défaite face aux États-Unis. L'une des familles les plus anciennes, mais pas la plus importante, est la Toa Yuei Jigyo Kyumai. Elle a été fondée en 1948 par un homme d'origine coréenne, Chong Kwang-gong. En japonais, on l'a surnommé Isayaki Mashi. Mashi est à l'origine de ce gang qui a commencé à travailler en Corée dès la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui s'est installé à Ginza, au Japon, à Tokyo, à partir de 1948. Son gang, qui était appelé Taokai, existe toujours. C'est une de ces quatre grandes familles du monde des Yakuza. Ils se sont occupés de jeux, puisque Ginza était justement un de ces quartiers de divertissement de Tokyo, mais aussi de prostitution, de trafic d'essence, de trafic de carburant, et bientôt ils sont aussi passés à l'activisme politique, non seulement en gérant des casinos dans différents pays du sud-est asiatique, mais aussi en soutenant des actions de la CIA. Bref, on comprend que le gang des Taokai n'est pas non plus complètement étranger à la politique. Plus important en taille, vient ensuite le Inagawa-kai, un autre gang fondé en 1949 dans la région du Kanto, dans la ville d'Atami. C'est aussi un gang spécialisé dans le jeu. Il a fait l'objet de nombreux conflits internes. Son nom vient de son fondateur, Kaguji Inagawa, mais celui qui a fait la fortune de ce gang s'appelle Susumu Ishii. Il a été le deuxième parrain du gang et a profité de la prospérité et de la bulle économique japonaise des années 80 pour faire la fortune de son gang. Et l'on comprend donc avec eux que le monde des Yakuza entretient des liens étroits avec celui de la finance et des grandes entreprises. Plus important encore, la famille Sumiyoshi, la Sumiyoshi-kai. Elle remonterait théoriquement à la fin du 19e siècle, mais on en trouve des traces et une certaine continuité à partir de l'occupation américaine du Japon en 1945. Des membres de ce gang se faisaient appeler la police de Ginza, c'est dire à quel point ils prétendaient tenir la rue et les quartiers. À Tokyo, ils accroissent leur popularité et leur taille à partir de 1958, quand ils se rebaptisent à l'initiative de Shigesaku Abe comme une société de fraternité. En fait de fraternité, leur activité se compose principalement de jeux, mais bientôt, ils vont aussi entrer dans les paris sportifs. Et c'est ce qui explique que cette organisation va jouer un rôle occulte dans l'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo en 1964 et ainsi développer une partie de ses activités au sein du secteur licite. Et finalement, on en arrive au gang le plus puissant, le plus grand et vraisemblablement le plus ancien, celui des Yamaguchi-gumi. Les Yamaguchi-gumi, c'est un peu un concentré de tout ce que savent faire le monde des Yakuza. Ils sont à la fois dans l'industrie sexuelle, dans le trafic de drogue, dans l'immobilier, dans le secteur des transports évidemment, à l'intérieur des ports. Ils sont passés maintenant dans la pornographie sur Internet et ils font évidemment, nous y reviendrons, du trafic d'armes. On estime qu'ils sont à l'heure actuelle plus de 20 000 membres de ce gang. Mais au fait, comment fonctionne l'ensemble de ces gangs? C'est ce que nous allons voir maintenant. Il y a d'abord le chef, celui qu'on appelle l'Oyabum, celui qui dirige une organisation. Mais pour bien comprendre ce que sont les Yakuza, revenons aux mémoires d'Eiji Eiji, qui nous explique les qualités qu'il faut pour appartenir à un clan.
La plupart des gens s'imaginent que les Yakuza sont des brutes. Mais pour arriver en haut, il faut bien plus que du muscle et de la force. Autrement, n'importe quel idiot pourrait y parvenir. Ce qui compte, c'est d'avoir les qualités qui font que les gars sous vos ordres sont loyaux, prêts à mourir pour vous si nécessaire.
La loyauté est donc la valeur cruciale pour les Yakuza. Afin de la renforcer, il existe tout un rite initiatique pour chaque nouveau membre. On appelle le prétendant au clan le Kobun, ce qui signifie littéralement « celui qui a le rôle de l'enfant ». Il est généralement vêtu d'un kimono noir face au reste du clan qui reste assis dans un silence total. On va fabriquer une boisson qui est un mélange de saké, l'alcool de riz, mais aussi avec du sel qui est utilisé pour purifier la pièce. Quand la boisson est prête, le chef et le kobun vident leur tasse. Le disciple gardera ensuite cette tasse toute sa vie comme un signe de fidélité à son clan. Très vite, il devra faire ses preuves et montrer qu'il suit les ordres et qu'il retient la protection du chef. Un moment est particulièrement solennel dans cette cérémonie, celui où l'on explique aux disciples qu'en cas d'échec, qu'en cas de défaillance dans sa conduite, il devra payer sur son corps sa faute et notamment par l'amputation d'une phalange. C'est la raison pour laquelle beaucoup de Yakuza ont subi une amputation du petit doigt. Ils ont perdu une ou deux phalanges quand ils ont fait des erreurs de conduite vis-à-vis de leur clan. Cela les rend tout à fait reconnaissables, aussi reconnaissables que les tatouages qu'ils se font sur leur corps et qui sont à la fois des marques d'identité et des marques d'adhésion à la collectivité. Quand deux Yakuza se rencontrent, généralement, ils se montrent torse nu pour bien s'identifier, car le reste de la société japonaise ne supporte pas les tatouages. Au contraire, elle les réprouve, car qui se tatoue se rapproche des Yakuza. Pour ancrer davantage la fidélité, le nouveau disciple doit prêter serment. Il répond ainsi à un code d'honneur un peu dérivé de celui des samouraïs, le code du Bushido, dont voici les principaux points.
Tu n'offenseras pas les bons citoyens. Tu ne prendras pas la femme du voisin. Tu ne voleras pas l'organisation. Tu ne te drogueras pas. Tu devras obéissance et respect à ton supérieur. Tu accepteras de mourir pour le père ou de faire de la prison pour lui. Tu ne devras parler du groupe à quiconque. En prison, tu ne diras rien.
La mécanique de ces gangs pourrait paraître bien huilée et ainsi décrite, on pourrait penser que la vie de Yakuza serait quelque chose de relativement tranquille. Rester à surveiller un club de jeu, donner éventuellement un signal quand la police arrive, organiser un trafic en partie en complicité avec les autorités locales ou internationales. Et pourtant, il n'en est rien. Car le monde des Yakuza est sans cesse en renouvellement. De petits gangs se constituent, qui à leur tour s'attaquent à ceux qui détiennent une activité, qui à leur tour se retrouvent bousculés et qui à leur tour doivent chercher protection auprès d'un groupe plus grand. Si bien que régulièrement, le monde des Yakuza fait l'objet de conflits, de guerres de territoire. de guerre des gangs. C'est le cas dès la fin des années 50 et dans les années 60, quand le gang des Yamaguchi-gumi décide d'étendre son influence à la fois à Osaka, à Tokyo, à Kobe, et donc de fédérer de nouveaux groupes. Ces conflits vont durer. À la fin des années 70, un changement de génération se produit. Au sein même du gang des Yamaguchi-gumi, plusieurs tentatives de meurtre contre les chefs se produisent. Est promu à ce moment-là un certain Masaru Takumi. Takumi a des allures d'homme d'affaires, avec sa mèche sur le côté, sa paire de lunettes, son costume trois pièces, bien taillé. Il est un des spécialistes de la finance du groupe. Pendant les années 80, il va donc permettre à l'entreprise de faire d'importants profits à la fois dans le secteur des affaires et dans le secteur boursier. Pourtant, Masaru Takumi a une santé relativement fragile. En 1992, il décide de se faire soigner en dehors du Japon, sans doute en espérant avoir une situation plus sûre. C'est ainsi qu'il prend l'avion pour venir en France, mais tout ne va pas se passer comme il le pensait. Écoutez le récit qu'en fait Europe 1.
L'avion de la Japan Airlines en provenance de Tokyo s'est posé hier soir vers 17h30 à l'aéroport de Roissy. À son bord, le numéro 2 de la pègre japonaise, Masaru Takumi, n'a pas été autorisé à débarquer comme les autres passagers. Témoignage de ce Français, il était dans le même vol.
Nous avons remarqué en sortant de l'avion qu'il y avait beaucoup de policiers. Et nous avons aperçu 3 ou 4 personnes qui étaient retenues dans l'avion et qui n'ont pas été autorisées à sortir. Et j'ai entendu dans la queue un monsieur dire que ces personnes confirmaient qu'elles avaient été interdites de débarquement.
Le ministère de l'Intérieur a en effet refusé l'entrée en France au numéro 2 de la pègre japonaise. Ce dernier voulait se faire soigner à Paris. Le même avion de la Japan Airlines ravitaillé a redécollé vers 20h15 de Roissy à destination du Japon. À son bord, Masaru Takumi, qui est reparti pour Tokyo sans même être descendu de l'appareil.
Rentré au Japon, Masaru Takumi ne va pas mourir de maladie. En fait, 5 ans plus tard, le 28 août 1997, il est assis tranquillement dans un café au 4e étage de l'Oriental Hotel à Kobe, quand soudain, 4 hommes armés, habillés dans des costumes sombres, surgissent. Ils appartiennent au Nakano Kai, un gang qui appartient au groupe des Yamaguchi-gumi. Mais ils sont en colère. Ils reprochent à Takumi sa politique de conciliation pacifiste alors que l'un de leurs chefs a été abattu. Il n'hésite pas, il tire des coups de feu. Takumi est abattu, avec lui d'ailleurs sera tué un innocent client de ce café. Et c'est la mort de l'une des stars des Yamaguchi-gumi, le numéro 2 de l'organisation. Les Nakano Kai n'en tireront pas profit, ils seront exclus de l'organisation et pousseront le chef du gang, Watanabe, à rester plus longuement au pouvoir alors qu'il espérait faire de Takumi son héritier. La guerre des gangs est donc toujours présente, y compris au sommet, quand on ne fait partie des Yakuza. Mais les Yakuza n'hésitent pas non plus à abattre ceux qui peuvent éventuellement être des obstacles à leur activité. Le maire de Nagasaki en a fait les frais. C'était en avril 2007. Tetsuya Shiro, un yakuza de 59 ans, a abattu Isho Ito, le maire, à la fois parce qu'il refusait de le faire intervenir dans les marchés publics de construction, et aussi pour une affaire d'honneur. La Mercedes de Tetsuya Shiro avait heurté un trou dans l'asphalte et il réclamait depuis une indemnisation par la municipalité qui s'y refusait. Et donc, par vengeance et sans doute par honneur, Shiro avait effectué ce meurtre qui conduisit la population de Nagasaki à rendre un hommage ému à Ito. Ce sont ces comportements violents qui poussent progressivement la société japonaise à rejeter ces parias que sont les Yakuza. À partir des années 70, des brigades de police commencent à agir contre le recrutement de ces groupes. Des mesures sont adoptées pour limiter leur influence. En 1992, une loi anti-gang est prise et elle permet de pourchasser les membres des organisations qui sont considérées jusqu'alors comme des organisations fraternelles. Maintenant, elles seront traitées comme des associations de malfaiteurs. Des mesures complémentaires sont adoptées dans les années 2011-2013. Elles permettent de contenir puis de réduire le nombre de yakuza. On pense que par rapport aux années 70, leur nombre a diminué de moitié. L'attractivité de ces organisations n'est plus la même. Le Japon, modernisé et sans doute aussi vieillissant, ne voit plus d'un même œil ces bandes rivales qui se battaient pour un morceau de macadam ou pour quelques jeux de cartes truquées. Aujourd'hui, les yakuza continuent d'œuvrer dans le secteur de la drogue ou de l'armement et sont en concurrence avec les mafias chinoises. Curieusement, la société japonaise a tendance à les mythifier à mesure qu'ils disparaissent du paysage. C'est Takeshi Kitano, le réalisateur, qui en a fait des personnages à la fois truculents, amusants, ridicules, mais charmants. Pourtant, ils ont réussi à s'introduire et à se maintenir dans le monde moderne. Ils étaient passés dans le domaine des jeux, puis dans celui de la finance. Aujourd'hui, ils sont aussi entrés dans le secteur du jeu vidéo, pas seulement comme des personnages, mais bien aussi comme des investisseurs. Ces vestiges du temps passé abordent donc le 21e siècle avec une forme de confiance. Ils sont certes moins nombreux, mais ils continuent d'exercer une influence sur la société japonaise, en passant même maintenant par la légalité. Si vous voulez en savoir plus sur les yakuza, il y a un livre d'Alec Dubrow et de David Kaplan aux éditions Philippe Piquier intitulé « Yakuza, la mafia japonaise ». Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite.
Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda,
préparée par Adèle Salmon, réalisée par Thomas Caillet.
Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.
À bientôt pour un prochain épisode.